Chapitre 49. Ressentir.
Radieux d'origine, l'annonciateur vient, venu annoncer l'origine des radieux. Bien que je n'apprécie guère la forme poétique qu'Etek comme moyen de transmettre l'information, celui-ci, écrit par Alan, est souvent cité en référence à Ouritirou. Je crois que certains ont pris à tort le foyer des radieux pour leur lieu d'origine.
Les hautes parois du gouffre qui s'élevait des deux côtés de Kaladin dégoulinaient de mousse d'un gris verdâtre. Les flammes de sa torche dansaient, et sa lumière se reflétait sur des sections de pierre rendues glissantes par la pluie. L'air humide était froid, et la tempête majeure avait laissé des flaques et des mares. Des eaux grêles, un cubitus et un radius, dépassaient d'une flaque profonde devant laquelle Kaladin passa. Il ne regarda pas si le reste du squelette s'y trouvait. Des crues subites, se dit-il en écoutant les pas traînants des hommes de pont derrière lui. Cette eau doit bien aller quelque part, autrement nous traverserions des canaux plutôt que des gouffres. Il ignorait s'il pouvait ou non se fier à son rêve, mais il s'était renseigné et s'était vu confirmer que le bord est des plaines brisées était plus ouvert que le bord ouest. Les plateaux avaient été usés par l'érosion. Si les hommes de pont pouvaient y parvenir, il serait peut-être en mesure de fuir vers l'est. Peut-être. De nombreux démons des gouffres vivaient dans cette zone, et les éclaireurs Aleti patrouillaient dans la zone au-delà. Si le groupe de Kaladin les croisait, ils auraient du mal à expliquer ce qu'un groupe d'hommes armés, dont beaucoup portaient des marques d'esclaves, faisait là. S'ils marchaient le long du mur du gouffre, au niveau de la tête de Kaladin, l'esprène du sol ne l'attirait pas vers le bas comme il le faisait pour tout le reste. Elle avançait avec les mains jointes derrière son dos, sa minuscule jupe à longueur du genou flottant comme portée par un vent intangible. S'échapper vers l'est, ça semblait improbable. Les hauts princes avaient fait de gros efforts pour explorer par là, en quête d'un itinéraire vers le centre des plaines. Ils avaient échoué. Les démons des gouffres avaient tué certains des groupes. D'autres s'étaient retrouvés pris dans les gouffres lors des tempêtes majeures, malgré leurs précautions. Il était impossible de prédire parfaitement les tempêtes. D'autres groupes d'éclaireurs avaient évité ces deux sorts. Ils s'étaient servis d'énormes échelles extensibles pour monter au sommet des plateaux lors des tempêtes majeures. Ils avaient perdu beaucoup d'hommes, cependant, car le sommet des plateaux fournissait un piètre abri lors des tempêtes, et l'on ne pouvait apporter de chariots ou d'autres abris avec soi dans les gouffres. Le plus gros problème, avait-il entendu, avait été les patrouilles Parchendi. Elles avaient trouvé et tué des dizaines de groupes d'éclaireurs. « Kaladin ?» demanda Teft en le rejoignant à la hâte, pataugeant dans une flaque où flottaient des fragments de coquilles de crémillon vides. « Tout va bien ?»«
Très bien. »«
Vous paraissez perdu dans vos pensées. »«
Plutôt alourdi par une bonne pensée. » répondit Kaladin. « Ce gruau était particulièrement compact ce matin. » Teft sourit.
« Je n'aurais jamais cru que vous étiez du genre à faire des jeux de mots. »
« Je l'étais plus avant. Je tiens ça de ma mère. On pouvait rarement lui dire quelque chose sans qu'elle le torde et vous le renvoie à la figure. »
Teft hocha la tête. Ils marchèrent un moment en silence avec les hommes de pont qui riaient derrière eux, tandis que Denis racontait une histoire sur la première fille qu'il ait jamais embrassée.
« Gamin, dit Teft, vous avez perçu quoi que ce soit d'étrange ces derniers temps ?»«
D'étrange ? Dans quel sens ?»«
Je sais pas. Simplement, quoi que ce soit d'inhabituel. »
Il toussa.
« Vous savez, des afflux de puissance, l'impression d'être léger. »
« L'impression d'être quoi ?»«
Léger.
Par exemple, d'avoir la tête qui tourne, des vertiges, ce genre de choses. »«
Non des foudres, mon garçon, je m'assure seulement que vous ne soyez plus malade. »«
Vous vous êtes fait sacrément malmené par cette tempête majeure. »«
Je vais bien, » répondit Kaladin. « Remarquablement bien, même. »«
Curieux, hein ?»
Ça l'était, en effet.
ce qui nourrissait son inquiétude tenace d'être sujet à une sorte de malédiction surnaturelle, comme celle qui était censée frapper les gens qui allaient chercher l'ancienne magie. Il y avait des récits sur des hommes mauvais devenus immortels, puis torturés pour l'éternité, comme Extès, à qui l'on arrachait les bras chaque jour pour avoir sacrifié son fils au néantifère en échange de la connaissance du jour de sa mort. Ce n'était qu'un conte, mais les contes avaient bien une origine. Kaladin vivait alors que tous les autres mouraient. Était-ce l'œuvre d'un spren de la damnation, qui jouait avec lui comme un spren du vent, mais infiniment plus vil, qui lui faisait croire qu'il parviendrait à faire le bien, puis qui tuait tous les gens qu'il essayait d'aider? Il était censé exister des milliers de types de spren, dont une grande partie que les gens ne voyaient jamais, ou dont ils ignoraient l'existence. S'il le suivait, se pouvait-il qu'un spren malfaisant fasse de même? Une pensée extrêmement dérangeante. La superstition est inutile, se dit-il énergiquement. Si tu y réfléchis trop, tu vas te retrouver comme Dirk, à insister pour ne jamais partir au combat sans tes bottes porte-bonheur. Ils atteignirent une section où le gouffre se divisait en deux pour contourner un haut plateau. Kaladin se tourna pour faire face aux hommes de pont. Cet endroit fera l'affaire autant que n'importe quel autre. Les hommes de pont s'arrêtèrent et se regroupèrent. Ils voyaient dans leurs yeux l'anticipation, l'excitation. Ils l'avaient éprouvée autrefois, avant de connaître la douleur de l'entraînement. Curieusement, Kaladin avait le sentiment d'être désormais à la fois encore plus impressionné et déçu par la lance que lorsqu'il était jeune. Il aimait la détermination, l'impression de certitude qu'il éprouvait lorsqu'il se battait. Mais ça n'avait pas sauvé ceux qui le suivaient. C'est là que je suis censé vous dire à quel point vous formez un groupe pitoyable, dit Kaladin aux hommes. Je l'ai toujours vu faire comme ça. Le sergent instructeur dit aux recrues qu'elles sont minables. Il souligne leurs faiblesses, s'entraîne peut-être avec quelques-unes d'entre elles, les jette sur leur arrière-train pour leur apprendre l'humilité. J'ai fait ça plusieurs fois moi-même quand je formais de nouveaux lanciers. Kaladin secoua la tête. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que nous allons commencer. Vous n'avez pas besoin qu'on vous humilie. Vous ne rêvez pas de gloire. Vous rêvez de survie. Par-dessus tout, vous n'êtes pas le groupe pitoyable et mal préparé que la plupart des sergents doivent affronter. Vous êtes coriace. Je vous ai vu courir des kilomètres en portant un pont. Vous êtes courageux. Je vous ai vu charger droit vers une ligne d'archers. Vous êtes déterminé. Autrement, vous ne seriez pas ici, maintenant, avec moi. Kaladin se dirigea vers le côté du gouffre et tira une lance abandonnée d'un tas de décombres charriés par les crues. Lorsqu'il s'en fut emparé, il remarqua toutefois que la tête de lance avait été arrachée. Il faillit la jeter, puis se ravisa. Les lances étaient dangereuses entre ses mains. Elles lui donnaient envie de se battre et risquaient de le pousser à croire qu'il était la personne qu'il avait été autrefois. Kaladin, béni des foudres, chef d'escouade sûr de lui. Il n'était plus cet homme-là. Il lui semblait que chaque fois qu'il prenait les armes, les gens mouraient autour de lui, amis comme ennemis. Pour l'heure, ça lui semblait donc une bonne chose de tenir ce morceau de bois. Ce n'était qu'un bâton, rien de plus. Un bâton qu'il pouvait utiliser pour s'entraîner. Il pourrait affronter le retour à la lance une autre fois. « C'est une bonne chose que vous soyez déjà préparé, » dit Kaladin aux hommes. Car nous n'avons pas les 6 semaines qu'on me donnait pour former un nouvel arrivage de recrues. D'ici 6 semaines, Sadea sera fait tuer la moitié d'entre nous. Moi, avant que 6 semaines se soient écoulées, je veux vous voir tous boire de la bourbière dans une taverne en lieu sûr. Plusieurs d'entre eux y répondirent par une semi-acclamation. Nous allons devoir faire vite, dit Kaladin. Je vais devoir me montrer exigeant. C'est notre seule chance. Il regarda la hampe de la lance. « La première chose que vous devez apprendre, c'est qu'il est important de ressentir les choses. » Les 33 hommes de pont formaient une double rangée. Tous avaient voulu venir, même Leiten, qui avait été si grièvement blessé. Aucun d'entre eux n'avait été blessé trop gravement pour pouvoir marcher, même si Dabid continuait à regarder dans le vide. Rock gardait les bras croisés, apparemment sans intention d'apprendre à se battre. Chêne, le parche, se tenaient tout au fond. Ils regardaient par terre. Kaladin ne comptait pas lui mettre une lance entre les mains. Plusieurs des hommes de pont semblèrent déroutés par ce que Kaladin venait de dire au sujet des émotions. Mais Teft haussa simplement un sourcil, et Moash bâilla. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Drei. C'était un homme blond dégingandé et musclé aux longs membres. Il parlait avec un léger accent. Il venait d'un endroit lointain à l'ouest, nommé Rianal. Beaucoup de soldats, poursuivit Kaladin en faisant courir son pouce le long du bâton, tâtant le grain du bois, croient qu'on se bat mieux en étant froid et dépourvu de passion. Je crois que ce sont des bêtises. Oui, il faut être concentré. Oui, les émotions sont dangereuses, mais si on ne ressent rien, qu'est-ce qu'on est ? Un animal qui ne cherche qu'à tuer. C'est notre passion qui nous rend humains. Nous devons nous battre pour une raison. Je vous affirme donc que c'est important de ressentir les choses. Nous allons parler de la façon de contrôler votre peur et votre colère. Mais rappelez-vous ceci comme la première leçon que je vous aurai apprise. Plusieurs des hommes de pont hochèrent la tête. La plupart semblaient toujours déconcertés. Kaladin se rappela s'être trouvé à leur place, se demandant pourquoi Tux perdait son temps à leur parler d'émotions. Il croyait alors comprendre leur nature. Son envie d'apprendre la lance était née de ses émotions. La vengeance, la haine, la soif d'avoir le pouvoir de châtier Vart et les soldats de son escouade. Il leva les yeux, cherchant à bannir ses souvenirs. Non, les hommes de pont ne comprenaient pas son discours sur les émotions. Mais peut-être se le rappellerait-il plus tard, comme Kaladin l'avait fait. La deuxième leçon, dit Kaladin, cognant la lance décapitée contre la pierre près de lui, avec un craquement qui résonna le long du gouffre, est d'ordre plus pratique. Avant de pouvoir apprendre à vous battre, vous allez devoir apprendre comment vous tenir. Il lâcha la lance. Les hommes de pont le regardèrent avec des mines déçues. Kaladin adopta une posture basique de lancier, pieds bien écartés, mais pas trop, tournés sur le côté, genoux pliés en une position lâchement accroupie. « Scar, je veux que vous veniez me pousser en arrière. »« Quoi ?»« Essayez de me déséquilibrer, » dit Kaladin. « Obligez-moi à trébucher. » Scar haussa les épaules et s'avança. Il tenta de renverser Kaladin, mais ce dernier repoussa ses mains sans aucun mal d'un bref coup de poignet. Scar jura et recommença, mais Kaladin lui saisit le bras et le poussa en arrière, ce qui fit trébucher Scar. « Drei, venez l'aider, » dit Kaladin. « Moash aussi, essayez de me déséquilibrer. » Les deux autres se joignirent à Scar. Kaladin esquiva les attaques, restant au milieu d'eux, ajustant sa posture pour repousser chaque tentative. Il saisit Drei par le bras et l'attira vers l'avant, ce qui faillit le faire tomber. Il s'avança pour parer le coup d'épaule de Scar, déviant le poids de l'autre homme et le rejetant en arrière. Il recula lorsque Moash l'entoura de ses bras, ce qui poussa Moash à perdre l'équilibre. Kaladin demeura imperturbable, oscillant entre eux et ajustant son centre d'équilibre en pliant les genoux et en positionnant ses pieds. « Le combat commence par les jambes, » dit-il tout en esquivant les attaques. « Quelle que soit la vitesse ou la précision de vos coups, si votre adversaire arrive à vous faire trébucher, vous perdez. Et perdre signifie mourir. » Plusieurs des spectateurs voulurent imiter Kaladin et s'accroupirent. Scar, Drei et Moash avaient enfin décidé de tenter un assaut coordonné pour saisir Kaladin à bras-le-corps tous ensemble. Kaladin leva la main. « Bien joué, tous les trois !» Il leur fit signe de rejoindre les autres. Ils interrompirent leur attaque à contre-cœur. « Je vais vous répartir par paires, » déclara-t-il. « Nous allons passer toute la journée d'aujourd'hui, et sans doute chaque jour de cette semaine, à travailler les postures. Apprendre à en maintenir une, à ne pas joindre les genoux dès que l'on est menacé, apprendre à conserver votre centre d'équilibre. Ça prendra du temps. Mais je vous assure qu'en commençant par là, vous apprendrez à être mortel beaucoup plus rapidement. Même si vous avez l'impression de rester simplement planté, à ne rien faire. » Les hommes acquiescèrent. « Teft, » ordonna Kaladin. « Répartissez-les en paires selon leur taille et leur poids, puis faites-leur répéter une position élémentaire à la lance. »« Oui, capitaine !» aboya Teft. Puis il se raidit, comprenant ce qu'il venait de révéler. La vitesse à laquelle il avait répondu trahissait qu'il avait été soldat. Teft croisa le regard de Kaladin et vit qu'il le savait. L'homme âgé se renfrogna, mais Kaladin lui répondit par un sourire. Il avait un vétéran sous ses ordres. Tout ça en serait nettement facilité. Plutôt que de feindre l'ignorance, Teft adopta avec aisance le rôle du sergent instructeur, répartissant les hommes par paires, corrigeant leur posture. « Pas étonnant qu'il ne retire jamais cette chemise, » se dit Kaladin. « Il doit cacher un réseau de cicatrices. » Tandis que Teft entraînait les hommes, Kaladin désigna Rock et lui fit signe d'approcher.
« Oui ?»
demanda Rock. Il était si large de poitrine que son gilet d'homme de pont se refermait à grand-peine. « Vous m'avez dit quelque chose une fois, » dit Kaladin, « comme quoi se battre était indigne de vous. »
« C'est vrai. Je ne suis pas un quatrième fils. Quel est le rapport ?»«
On a besoin du premier et du deuxième fils pour préparer la nourriture, » répondit Rock en levant le doigt. « C'est le plus important. Sans nourriture, personne ne vit, hein ?»« Le troisième fils est artisan. C'est moi. Je suis fier de servir. Seul le quatrième fils peut être guerrier. Les guerriers ne sont pas aussi nécessaires que la nourriture ou l'artisanat. Vous voyez ?
Votre profession est déterminée par l'ordre de votre naissance ?
Oui, répondit fièrement Rock. C'est meilleur moyen. Sur les pics, il y a toujours de la nourriture. Toutes les familles n'ont pas quatre fils, donc on n'a pas toujours besoin de soldats. Je ne peux pas me battre. Quel homme pourrait faire cette chose devant les Oulites et Kanaki ?
Kaladin lança un regard furtif à Syl. Elle haussa les épaules sans paraître se soucier de ce que faisait Rock. Très bien, dit-il. Dans ce cas, je vais vous demander autre chose. Allez chercher l'Open d'Abid. Kaladin hésita. Et Shen, lui aussi. Rock s'exécuta. L'Open se trouvait dans le rang en train d'apprendre les postures, mais Dabid, comme toujours, se tenait à l'écart sur le côté, regardant dans le vide. Quoi qui ait pu lui arriver, c'était bien pire que le choc ordinaire lié au combat. Shen se tenait près de lui, hésitant, comme s'il n'était pas sûr de savoir où était sa place. Rock tira l'Open hors du rang, puis saisit Dabid et Shen et retourna vers Kaladin.
« Gancho !» dit l'Open avec un salut paresseux. « J'imagine que je ferai un piètre lancé avec une seule main. »«
Ne vous en faites pas, » dit Kaladin. « Il y a autre chose que je voudrais que vous fassiez. Gaz est notre nouveau capitaine, ou du moins son épouse. Nous mènerons la vie dure si nous ne rapportons pas de butin. »«
On ne peut pas faire à trois le travail de 30, Kaladin, » dit Rock en se grattant la barbe. « N'est pas possible. »«
Peut-être, » répondit Kaladin. Mais la plupart du temps que nous passons dans ces gouffres est consacré à chercher des cadavres qui n'aient pas été dépouillés. Je crois que nous pouvons travailler beaucoup plus vite. Nous devons travailler beaucoup plus vite, si nous voulons nous entraîner à la lance. Heureusement, nous disposons d'un avantage. Il tendit la main et Syl s'y posa. Il lui avait parlé un peu plus tôt et elle avait accepté son plan. Il ne la vit pas faire quoi que ce soit de particulier, mais l'Open eut soudain un hoquet. Syl s'était rendu visible à ses yeux. « Ah !» dit Rock en s'inclinant respectueusement devant Syl. «
Comme cueillir les roseaux. »«
Par mon clic-flamme !» dit l'Open. « Rock, tu ne m'avais jamais dit qu'elle était si jolie !»
Syl eut un large sourire.
« Soyez respectueux !» dit Rock. « Vous ne pouvez pas en parler comme ça, petite personne. »
Les hommes étaient au courant de l'existence de Syl, bien entendu. Kaladin n'en disait jamais rien, mais il l'avait vu parler dans le vide, et Rock leur avait tout expliqué.
« L'Open, » dit Kaladin,
« Syl peut se déplacer beaucoup plus vite qu'un homme de pont. Elle va chercher des endroits que vous pourrez fouiller, et vous pourrez récolter du butin rapidement, tous les quatre. »«
Dangereux, » dit Rock. Et si nous rencontrons des mains des gouffres, alors que nous sommes seuls ?
Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer les mains vides. La dernière chose que nous voulons, c'est que Achal décide d'envoyer Gaz en bas pour nous surveiller. L'Open ricana.
Il ne ferait jamais ça, Gancho. Trop de travail en bas.
Trop dangereux aussi, ajouta Rock.
C'est ce que tout le monde dit, répondit Kaladine. Mais je n'ai jamais vu davantage que ces éraflures sur les murs.
Ils sont ici, dit Rock. Ce n'est pas seulement légende. Juste avant votre arrivée, la moitié d'une équipe de pont a été tuée, dévorée. La plupart des bêtes vont vers les plateaux du milieu, mais il y en a qui viennent jusqu'ici.
Très bien, Gancho, dit Lopen. Je vais y aller.
Moi aussi, dit Rock. Avec Ali Ikamura. Pour nous protéger, nous serons peut-être en sécurité.
Je compte finir par vous apprendre à vous battre, dit Kaladine. Puis, comme Rock fronçait les sourcils, il s'empressa d'ajouter « Vous, Lopen, je veux dire. N'avoir qu'un bras ne signifie pas que vous êtes inutile. Vous serez désavantagé, mais il y a des choses que je peux vous apprendre pour compenser. Pour l'heure, un pilleur nous est plus utile qu'une lance supplémentaire.
« Ça me va !»
Lopen fit un signe à David, et tous deux s'en allèrent récupérer des sacs pour la collecte. Rock voulut les rejoindre, mais Kaladine le prit par le bras. « Je n'ai pas renoncé à trouver un moyen plus facile de partir d'ici que de se battre, » lui dit Kaladine. « Si nous ne revenions jamais, Gaz et les autres supposeraient sans doute qu'un démon des gouffres nous a attaqués. S'il existe un moyen d'atteindre l'autre côté... » Rock parut sceptique.
« Beaucoup ont cherché cette chose.
Le gouffre est ouvert à l'est. »«
Oui, » répondit Rock en riant. Et quand vous serez capable de voyager aussi loin sans vous faire dévorer par des monts des gouffres ou tuer par les crues, je vous nommerai mon Kalouk Iiki.
Kaladine haussa un sourcil.
Seule une femme peut être Kalouk Iiki,
répondit Rock, comme si ça expliquait la blague. Une épouse?
Rock rit de plus belle. « Non, non, Sébastère, l'air leur ramollit la cervelle.
» Génial. Écoutez, voyez si vous parvenez à mémoriser les gouffres, peut-être à tracer un genre de carte. Je soupçonne que la majorité des gens qui descendent jusqu'ici s'en tiennent aux itinéraires établis. Ce qui signifie que nous avons beaucoup plus de chances de trouver du butin le long des passages latéraux. C'est là que je vais envoyer Syl.
« Des passages latéraux ?» demanda Rock, toujours amusé. « On pourrait commencer à croire que vous voulez que je me fasse dévorer. Et par un magnocoque, c'est nous qui sommes censés les manger, pas l'inverse. »« Je... Non, non, » dit Rock. « C'est un bon plan. Je ne fais que plaisanter. Je peux me montrer prudent et ce sera une bonne chose à faire, puisque je ne souhaite pas me battre. »«
Merci. » Peut-être que vous trouverez un endroit où il sera possible de grimper pour sortir.
« Je vais faire cette chose, » répondit Rock en hochant la tête. « Mais nous ne pouvons pas nous échapper en grimpant. L'armée a beaucoup d'éclaireurs dans les plaines. C'est comme ça qu'ils savent les démons des gouffres viennent faire leur chrysalide, hein ? Ils nous verront, et nous ne pourrons pas traverser les gouffres sans pont. »
C'était malheureusement un bon argument. S'ils grimpaient ici, on les verrait. S'ils grimpaient au milieu, ils se retrouveraient coincés sur des plateaux sans nulle part où aller. S'ils grimpaient plus près des territoires des Parchendi, leurs éclaireurs les trouveraient. À supposer déjà qu'ils parviennent à sortir des gouffres. Bien que certains ne fassent qu'une douzaine ou une quinzaine de mètres de profondeur, beaucoup dépassaient largement les 30 mètres. Syl fila vers l'avant pour guider Rock et son équipe, et Kaladine retourna auprès du groupe principal d'hommes de pont pour aider Teft à corriger les postures. Ce fut une tâche difficile. Le premier jour l'était toujours. Les hommes de pont étaient hésitants et manquaient de rigueur. Mais ils faisaient également preuve d'une résolution remarquable. Kaladine n'avait jamais travaillé avec un groupe qui se plaigne aussi peu. Les hommes de pont ne demandaient pas de pause. Il ne lui lançait pas de regard plein de ressentiment lorsqu'il les obligeait à forcer. Leur mine renfrognée était dirigée contre leur propre faiblesse, car ils étaient furieux contre eux-mêmes de ne pas apprendre plus vite. Et ils y parvinrent. Au bout de quelques heures à peine, les plus doués d'entre eux, Moash le premier, commencèrent à se changer en combattants. Leur posture se fit plus affirmée, plus confiante. Alors qu'ils auraient dû être épuisés et frustrés, ils étaient plus déterminés. Kaladin recula pour regarder Moash adopter sa posture après que Teft l'avait poussé. C'était un exercice répétitif. Moash laissait Teft le pousser en arrière, puis reprenait sa position et replaçait ses pieds. Encore et encore. Le but était de s'entraîner à reprendre la posture sans y réfléchir. En temps ordinaire, Kaladin n'aurait pas commencé les exercices de reprise de posture avant le deuxième ou troisième jour. Mais ici, Moash l'absorbait après 2 heures à peine. Il y en avait 2 autres, Drei et Scar, qui apprenaient presque aussi vite. Kaladin s'appuya contre la paroi rocheuse. De l'eau froide coulait près de lui le long de la roche, et une freluche hésitante ouvrit ses frondes en éventail près de sa tête. 2 larges feuilles oranges, avec au bout des pointes des piquants qui s'ouvraient comme des poings. « Est-ce que c'est leur formation d'hommes de pont ?» se demanda Kaladin. « Ou bien leur passion ?» Il leur avait donné une chance de riposter. Ce genre d'occasion transformait un homme. Alors qu'il les regardait adopter avec compétence et détermination des postures qu'on venait à peine de leur apprendre, Kaladin comprit quelque chose. Ces hommes, rejetés par l'armée, quasiment obligés à se tuer à la tâche, puis nourris de surplus de nourriture grâce aux prévisions soigneuses de Kaladin, étaient les recrues les plus aptes et les mieux préparées qu'on lui ait jamais données. En cherchant à les abattre, Sadeas les avait préparés à exceller.